pour l'équipe, pour ces chants que vous nous avez entraînés à chanter. Ces beaux cantiques, ces belles paroles de foi pour notre Seigneur Jésus. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est extra de se retrouver ensemble pour louer le Seigneur, n'est-ce pas? Un très beau moment dans la présence de Dieu et ça me touche énormément. Ce matin, nous allons continuer notre parcours dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3 et une partie du chapitre 4. Loïc nous avait déjà introduit donc au chapitre 1 et 2, et donc je vais continuer, si vous voulez. Donc vous avez vos Bibles avec vous, ou alors vos iPhones, vos smartphones, vos tablettes. Un commentateur a dit, si tu peux passer la première diapo, ce sera le titre. Le livre des Actes des Apôtres peut s'appeler aussi le livre de l'Église en mission. Le livre de l'Église en mission. Gérard dit amen. Ça tombe bien, hein, pour Gérard. Alors c'est vrai, Loïc nous le rappelait, le livre des Actes nous raconte comment l'évangile de Jésus-Christ se propage sous l'impulsion de l'Esprit-Saint, démarre à Jérusalem et s'en va jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela se fait par l'Église et les témoins que le Seigneur appelle. C'est-à-dire effectivement les apôtres, le livre des Actes des Apôtres, mais pas que. Parce que l'Église est impliquée dans tout ce qui est rayonnement autour d'elle. Et c'est ce que nous allons voir durant ces mois qui vont venir autour du livre des Actes des Apôtres. La fin du chapitre 2 se termine comme ceci. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le chapitre 3 et une majeure partie du chapitre 4 vient illustrer un petit peu cette déclaration. C'est un peu comme si l'auteur, Luc, inspiré par le Saint-Esprit, nous disait « Eh oui, effectivement, le Seigneur rajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, mais je vais vous montrer comment cela se passe, comment cela se fait. » Et Luc raconte une histoire, une rencontre, qui aurait pu simplement être qu'une simple rencontre, mais qui va se transformer en bénédiction, en retentissement, en dépassement de limites. Ce matin, on a eu une parole de dépassement de limites pour la jeune église de Jérusalem. C'est un petit peu comme une boule de neige qui grossit à fur et à mesure qu'elle dévale une pente. On peut parler aussi d'événements en chaîne, rattachés les uns aux autres, d'événements qui se bousculent les uns par les autres. Vous avez tous vu sur Facebook ou je ne sais quoi, ces gens qui s'amusent à mettre des dominos les uns à côté des autres et ils remplissent des pièces comme ici avec des dominos. Ils passent des heures et des heures à mettre des dominos, à les mettre de manière un peu à cabardabresque, etc. Ils passent des journées, des heures entières. Ils sont un petit peu maso peut-être, hein, je ne sais pas. Et puis leur seul régal, c'est à la fin, quand tout est construit, ils donnent une petite pitchenette au premier domino, et puis tous les dominos, en 5 minutes, tout est sans dessus-dessous, et c'est extraordinaire à voir. Et un petit peu, c'est ce qui se passe dans le livre des apôtres, dans le chapitre 3. Il a suffi d'une petite poussée, je dirais, pour moi, c'est une grande poussée, mais il a suffi de quelque chose, d'une rencontre, qui va déboucher sur d'autres événements. Alors regardons de plus près cette chaîne d'événements. Cela débute par une guérison miraculeuse. Alors ça, je sais, c'est une grosse boule de neige, pour nous en tout cas, et pour moi en tout cas. et nous allons lire ce texte. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Rien que ça, déjà, je voudrais m'arrêter, Pierre et Jean. Vous vous rappelez comment ils étaient ? La maman de Jean en particulier, avec son frère Jacques, qui disait, qui cherchait à savoir qui était le plus grand. Hein ? Et là, on voit deux compagnons, deux amis, qui sont embarqués en mission pour le Seigneur. Je loue Dieu de l'amitié qui se fonde sur la mission que nous avons en Jésus-Christ. Pierre et Jean. Pierre, c'était sûrement un homme assez mature. Jean, c'était le plus jeune des apôtres. Et ils étaient à niveau égal pour le Seigneur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demande l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixe les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « De l'argent, de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, et d'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher, et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Cette guérison n'était pas préméditée. Cela commence tous les jours pour l'homme boiteux, comme une journée un petit peu ordinaire. Tous les jours, on venait et on l'amenait à l'abord du temple pour qu'il puisse faire l'aumône. Cette guérison n'est pas préméditée pour Pierre et pour Jean non plus. Le temps du verbe dans la phrase indique qu'il y avait une action quotidienne et répétée, une action coutumière. C'est-à-dire que Pierre et Jean avaient l'habitude d'aller au temple pour la 9e heure, pour prier. Pierre et Jean ne se sont pas levés le matin en se disant « Voilà, on va programmer la guérison du boiteux. Et ça va faire un peu de pub, et ça va faire du bien à l'Église. » Non, ils n'avaient pas programmé ça. Ils vont pour prier dans le temple. Et puis là, paf, quelque chose se passe. Un temps spécial. Un moment voulu par Dieu. Un rendez-vous divin, en quelque sorte. Une parole qui ouvre quelque chose, c'est le boiteux qui demande. Peut-être de manière suppliante. Et une ouverture d'esprit chez Pierre et chez Jean. Une ouverture et une écoute intérieure au Saint-Esprit. Et là, une parole de foi. La guérison est effective. Le Seigneur honore la parole de Pierre, qu'il la prononce dans la foi. La guérison est effective, mais cela aurait pu s'arrêter là. La guérison, c'est déjà merveilleux pour le boiteux, n'est-ce pas ? Mais l'homme qui est boiteux, il découvre une liberté nouvelle et il en est reconnaissant. Il loue le Seigneur et puis il montre qu'il loue le Seigneur. Il ne dit pas « Seigneur, merci simplement pour la guérison ouais, ». Il loue le Seigneur, il saute, il court, il marche, il va au fond de ses possibilités. Il est comme un homme qui vient d'avoir une nouvelle voiture. Vous voyez ? Il va la tester à fond. Voilà. Lui, il a des nouvelles jambes. Il va tester à fond ses nouvelles possibilités. Il a envie de voir ce qu'il y a dans le ventre de ses jambes. C'est la première étape. Qu'est-ce qui se passe ? À partir de maintenant, c'est la deuxième étape, qui n'était pas encore préméditée non plus. Pierre et Jean se sont avancés un peu plus loin. Ils sont au portique de Salomon maintenant. Ils ne sont plus devant la porte, la Belle. Ils sont au portique de Salomon. C'est-à-dire qu'ils ont continué à aller pourquoi ils étaient venus. L'ex-boiteux les suit. Et le peuple les suit tous les trois. Chacun se suit. Et là, Pierre et Jean voient qu'il y a une opportunité pour annoncer l'évangile. Et le résultat, c'est 2000 personnes qui crurent la parole. Alors, quelle parole ? Ça, on va le voir tout à l'heure. Mais ces 2000 personnes, ils ont commencé par une personne, le boiteux. Une série d'événements qui commencent par une personne. Et la boule de neige continue à dévaler et à grossir, continue d'évoluer. Une autre circonstance vient d'apparaître, comme une troisième étape. Les Sadducéens qui sont là, qui surveillent ce qui se passe dans le temple, sont excédés, c'est marqué, ils sont excédés par ce qu'ils viennent d'entendre, parce que l'enseignement des apôtres va à l'encontre de leur propre enseignement au sujet de la résurrection. Ils les mettent en prison, ils mettent Pierre et Jean en prison parce que c'est le soir, ils n'ont pas le temps de traiter cette affaire. Et le lendemain matin, au grand complet, les chefs du peuple leur demandent de s'expliquer et d'arrêter de parler au nom de Jésus-Christ. Oh oh, est-ce qu'ils vont écouter les chefs qui ont le pouvoir coercitif de les arrêter ? Pierre, rempli de l'Esprit Saint, il est vraiment différent de qui il était auparavant, leur annonce aussi l'évangile aux Sadducéens et aux chefs qui sont là. Et est-ce que vous vous rappelez comment Pierre était avant que le Saint-Esprit vienne sur lui ? C'était un courageux, hein, mais à l'envers. Je pense que j'aurais été comme lui, hein. Lorsqu'on emprisonne Jésus, lorsqu'on le met au tribunal, quelqu'un va lui dire, Pierre, et tu n'es pas de ses disciples. C'est marqué, il le nia. Je ne suis pas de ses disciples. Deux fois, trois fois, le coq chante. Vous connaissez l'histoire. Mais là, Pierre est vraiment rempli de l'Esprit Saint. Et il va affirmer. Tu peux sauter, tu en es à la première étape, là, je ne t'ai pas oublié de sauter. Deuxième étape. Troisième étape, vas-y, voilà. Les chefs du peuple, les anciens leur demandent par quelle puissance et par quel nom avez-vous fait cela ? Passe. Défendez-leur avec menace de parler désormais avec qui que ce soit en ce nom-là. Passe. Voici ce que affirme l'apôtre Pierre. Il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ça, il le dit en face de tous les chefs. Voilà, quelle assurance, quelle attitude, quelle fermeté, quelle radicalité. Il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ça a bouché un coin aux membres du Sanhédrin. C'est marqué, ils ne purent rien répliquer face à la détermination de Pierre et de Jean, face à l'assurance et au courage de Pierre et de Jean. Et alors, ils vont essayer de dire, ben, arrêtez de le faire quand même. Arrêtez de parler au nom de Jésus. Et Pierre et Jean ont dit, mais non, nous on a à obéir à Dieu seul. Nous ne pouvons pas obéir. Jugez-vous qu'il est mieux d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Jugez. Et le Sanhédrin libère Pierre et Jean. C'est l'étape numéro 4. L'Église en mission ne veut pas abandonner sa mission malgré les menaces. Et demande au Seigneur d'avoir encore plus d'assurance pour continuer à annoncer la parole avec force et la puissance par le nom de Jésus-Christ. Et voici ma première exhortation, frères et sœurs. C'est une exhortation que je m'adresse à moi aussi. Une chaîne d'événements commence toujours par un premier geste. Parfois ce geste, parfois cette parole, nous sommes si petits, voire même dérisoires, et pourtant, ce petit geste peut entraîner des grandes conséquences. Et avec la grâce de Dieu, nos gestes faits dans le nom de Jésus-Christ, entraîne des conséquences qui sont inscrites dans le ciel. Alors effectivement, certains témoignages ne peuvent pas être explosifs. Mais parce qu'ils sont donnés dans la fidélité à Jésus-Christ, ils ont des conséquences extraordinaires dans le dessein de Dieu. Je pense à la mère, par exemple, de celui que l'on nomme Saint Augustin. Une simple femme qui prie fidèlement pour son fils qui mène une vie de patachon. Patachon, c'est joli comme nom, mais la vie d'Augustin, c'est une vie dissolue. Augustin va se convertir. Il va devenir un des meilleurs théologiens de la grâce. Va être un docteur de l'Église, comme on dit. Va être influent dans tout le christianisme. Je pense à Billy Graham, qui fut touché dans une campagne d'évangélisation par un homme qui lui-même fut touché de la même manière. Et cet homme qui a annoncé l'Évangile avait lui-même entendu l'Évangile par un autre homme qui avait été touché par l'Évangile par son moniteur d'écolette, qui avait pris du temps avec lui un samedi après-midi. On ne se rappelle plus guère du premier nom, mais vous pouvez être sûr que Jésus, dans le ciel, le connaît parfaitement. Mes amis, nous sommes l'Église en mission. Nous avons une mission dans le monde. Chacun d'entre nous, le Seigneur nous a placés à l'endroit où il voulait que l'on soit. Et nous devrions, je devrais, être sensible au Saint-Esprit à chaque moment, à chaque instant, chaque jour, pour les petits gestes que peut-être il va me demander de faire. Peut-être annoncer une parole de guérison à un tel ou une telle. Peut-être donner un verre d'eau à un tel ou une telle. Peut-être donner du chocolat à un tel ou une telle. Peut-être sourire. Soyons attentifs aux situations que nous rencontrons dans notre quotidien. Apprenons sans cesse à être en alerte, à l'écoute du Saint-Esprit. Les 2000, je vous l'ai dit, qui se sont rajoutés à l'Église, ils l'ont été à cause d'un seul. À cause d'un seul. Hier matin, j'ai écouté avec un grand plaisir l'histoire extraordinaire, qui est une histoire vraie, réelle, qui s'est passée au milieu de nous, d'un sauvetage d'un petit bébé qui aurait dû mourir et qui a été sauvé par la ténacité, l'opportunité d'une femme sensibilisée par le Seigneur, qui n'était pas venue... qui n'avait pas prémédité les choses, qui a répondu simplement à l'appel du Seigneur à un moment donné, à une situation précise. Et ce bébé qui aurait dû mourir, laissé sur la fenêtre, on la connaît, elle n'est pas là au milieu de nous, je ne pense pas, vous la connaissez, et elle s'appelle Lily. Et demandez à Béa de vous raconter cette histoire. Et moi, je ne sais pas quelle chaîne d'événements ça va déclencher. Mais il y a une chaîne d'événements extraordinaires. Je le sais. Offrons un verre d'eau au nom de Jésus-Christ. Visitons une personne au nom de Jésus-Christ. Offrons une prière de guérison au nom de Jésus-Christ. Offrons un livre au nom de Jésus-Christ. Offrons du chocolat au nom de Jésus-Christ. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu dois amener des crêpes à ton voisin. Les crêpes, c'est rien à faire, hein, mais aller chez le voisin pour lui offrir des crêpes au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu une voix du ciel. J'ai juste saisi une opportunité. Et il y a des opportunités chaque jour, chaque moment de nos vies, que le Seigneur veut simplement être en alerte, en vigilance. Avoir le radar. Je voudrais prendre encore quelques minutes pour un deuxième point qui est le plus important à mes yeux. Et je le nomme, l'Église en mission parle, et agit au nom de Jésus-Christ. Elle témoigne du nom de Jésus, elle le fait connaître. Il ne fait aucun doute à la lecture des chapitres 3 et 4 du livre des Actes que l'accent est mis sur le nom de Jésus-Christ. Relisez, prenez le temps et vous allez voir que le nom de Jésus-Christ réapparaît de manière centrale à chaque moment des épisodes que je vous ai décrits. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je vous interdis de parler du nom de Jésus-Christ, etc., etc. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom d'une personne à l'époque de l'Ancien Testament et du temps de Jésus avait une signification en relation avec l'identité ou avec les événements qui ont présidé à la naissance de la personne. Norbert, je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, c'est moi, je m'appelle Norbert, Norbert c'est mon nom. Voilà. Lorsqu'on a donné le nom de Jésus à Jésus, Jésus, ça, Yeshua, ça veut dire sauveur, c'est vraiment son identité, c'est vraiment sa mission. Et c'est l'ange qui a dit aux parents de l'appeler Jésus. L'ange. Le nom représente réellement l'identité de la personne qui le porte. Et donc tout à l'heure, j'ai cité d'autres tournures qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Parler au nom de Jésus, prier au nom de Jésus, demander au nom de Jésus, donner un verre d'eau au nom de Jésus, visiter quelqu'un en son nom. Parler au nom de quelqu'un, cela veut dire que l'on connaît bien la personne que l'on représente. Que l'on va dire exactement ce que la personne aurait dit. Si je vous parle au nom de Pascal, je vais vous retransmettre la pensée de Pascal. Je vais vous retransmettre peut-être les mots même de Pascal. Je n'ai pas la possibilité, le choix de dire autre chose que ce que Pascal aurait dit si je parle au nom de Pascal. Vous voyez ? Parler au nom de Jésus-Christ, c'est dire ce que Jésus-Christ aurait dit. C'est parler sous son identité, sous son contrôle. Prier au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas simplement dire une formule pieuse. Ça fait bien de dire au nom de Jésus, Amen. Ça termine la phrase et la demande. Prier au nom de Jésus, c'est prier sous l'autorité de Jésus. C'est demander quelque chose au Père dans le nom de Jésus, c'est demander au Père quelque chose que l'on sait être conforme à ce que le Fils demanderait lui-même. Vous voyez ? Vous demanderez toute chose en mon nom et le Père vous l'accordera. Ah, super, j'ai gagné le jackpot. Maintenant, il suffit que je dise au nom de Jésus-Christ et j'obtiens tout ce que je veux. Au nom de Jésus-Christ, demain matin, que de sur mon compte en banque, même si ça diminue tous les jours, comme disait Pascal, eh bien, qu'il y ait 2000 euros. Au nom de Jésus. Demandez quelque chose au Père dans le nom de Jésus. C'est demander au Père quelque chose que l'on sait être conforme à ce que le Fils demanderait. Et donc, prier au nom de Jésus, cela signifie, sous-entendu, que le Fils et moi, nous ayons une relation profonde. OK ? Alors, plus tôt, je vous ai fait remarquer que 2000 hommes ont cru à la parole. Ils n'ont pas cru à cause simplement du boiteux qui était guéri devant eux. C'est marqué, ils ont cru à la parole. Mais quelle parole ? Ils crurent quoi de la parole ? Pierre et Jean prennent le soin de dire qu'ils ne sont pas des guérisseurs ayant un pouvoir qui leur est propre. Ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. Il s'agit de Jésus de Nazareth, le Christ. C'est en son nom qu'ils sont là, c'est en son nom, c'est par la foi en son nom que le boiteux a été guéri. Pierre, dans son discours, improvisé, pas préparé, il n'a pas eu la semaine pour préparer, il a été en confrontation directe, instantanée avec la foule qui était là, mais il était inspiré par le Saint-Esprit, Pierre parle de Jésus, de Jésus-Christ. Il se met au niveau de la connaissance des gens qui l'écoutent. Qui était Jésus pour eux ? qui était Jésus pour eux. Pratiquement tout le monde à Jérusalem avait entendu parler de l'histoire de Jésus-Christ. Tout le monde savait que quelque chose s'était passé concernant cet homme. Internet n'existait pas encore, mais le bouche à oreille, ça fonctionnait pas mal à l'époque. L'événement de la Pâque n'était pas si éloigné que ça, peut-être 2 mois, 3 mois en arrière. Et on se souvient de l'écriteau que Pilate a fait placarder sur la croix où il était marqué en 3 langues, hébreu, grec et latin. C'est l'évangile de Jean qui nous le précise. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les chefs des pharisiens et du Sanhédrin ont voulu changer le nom, ont voulu changer l'écriteau en disant « Ne marque pas celui-ci le roi des Juifs, marque, celui-ci a dit qu'il était le roi des Juifs. » Pilate, il a dit, il devait être aussi un peu énervé par tout ça, par toute cette polémique. Il a dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, maintenant on ne va pas user de l'encre. » Ce n'était pas de l'encre, c'était... Bon, je ne sais pas comment ils écrivaient à l'époque, en fait. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ça va rester. Et là, Pierre reprend et va expliquer qui était Jésus-Christ en vérité. Pour la foule qui l'entendait, qui avait crié de relâcher Barabbas à la place de Jésus, pour la foule, Jésus a dû mériter ce que les Romains ont dû lui faire subir, lui ont fait subir. C'était sûrement un homme blasphémateur. C'était sûrement quelqu'un qui était plus bas qu'un meurtrier, et puis il était mort, crucifié, basta. Et Pierre les prend à contre-courant. Et il commence sa prédication extraordinaire en disant « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, vous avez demandé qu'on vous accorda la grâce d'un meurtrier. » Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts et nous en sommes témoins. Il reprend les arguments de la foule et dit la vérité par rapport aux arguments de la foule. Vous pensez qu'il était un blasphémateur, mais nous vous disons qu'il était un serviteur de Dieu. Et serviteur de Dieu, dans la tête des gens qui connaissent un peu l'Ancien Testament, c'est Ésaïe, voici le serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire le Messie. Vous pensez qu'il était un meurtrier ? Vous avez choisi de relâcher un assassin, mais lui, c'était un juste et un saint. Vous pensiez qu'une fois mort, c'était fini de son histoire ? Mais il est le prince de la vie. Il est ressuscité et nous en sommes témoins. Il était venu vous faire du bien. Vous avez fait le mal contre lui. Vous n'avez pas vu. Vous ne l'avez pas reconnu. Pierre va dire, vous avez agi par ignorance. Et Jésus, lorsqu'à la croix, va dire, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont agi par ignorance. Ils n'ont pas vu. Et Pierre va continuer. Il va leur dire, c'est le temps pour vous de changer et de vous repentir. Il ne les assaisonne pas, il ne les assassine pas. Après tout ça, après ces paroles qui étaient dans la vérité, mais Pierre va dire, parce que lui, il connaît la grâce, parce que la grâce, lui aussi, il a trahi le Seigneur. Et la grâce, il l'a reçue. Pierre rajoute, en connaisseur de la grâce de Dieu qui lui a été faite, et vos péchés seront effacés. Et vos péchés seront effacés. Frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre, l'Église en mission a le même message. L'Église en mission que nous sommes devons porter témoignage au nom de Jésus-Christ, sur le nom de Jésus-Christ, sur son identité, sur ce qu'il est vraiment, réellement. Nous sommes appelés à nous mettre au niveau de la connaissance de celui ou de celle que nous rencontrons et l'amener à aller plus loin dans la connaissance du Sauveur et du Seigneur. Ce n'est pas nous qui sauvons les gens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre, L'évangile va consister à mettre le doigt sur la misère des hommes, ce que Pierre fait. Il a mis le doigt sur ce qui blessait dans la foule. Vous avez trahi, vous ne l'avez pas vu. Vous avez crucifié, vous avez relâché un meurtrier. Et puis en même temps, l'évangile consiste aussi à amener la miséricorde de Dieu. Face à la misère de l'homme, il y a la miséricorde de Dieu. C'est notre message. C'est le message de l'Église aux missions. Ça ne peut pas être moins que ça. Si nous voulons avoir du résultat, entre guillemets, on n'est pas là pour être fixé sur le résultat. Le Seigneur, c'est lui qui sauve et c'est lui qui rajoute à l'Église ce qui était sauvé. Mais en tout cas, notre mission de l'Église, c'est d'annoncer le message avec clarté, prévenance, autorité, radicalité. Il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné sur la terre parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Vous pouvez répéter ? Aucun autre nom. Alors, en France, c'est compliqué parce que nous sommes confrontés avec l'esprit de tolérance. Et dire il n'y a aucun autre nom, ça ne va pas. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne sommes plus l'Église en mission. Si nous ne le proclamons pas, nous ne sommes plus des témoins de Christ. Le Seigneur nous lance un défi. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons besoin d'un message qui soit clairement audible par nous, les témoins, en conformité avec ce que Jésus-Christ est. C'est-à-dire que mon comportement va aussi témoigner par moi. Vous savez, souvent on dissocie parole et acte. Ne dissocions pas les actes et les paroles. Prions pour des guérisons, mais s'il n'y a pas la parole qui accompagne la guérison va faire du bien peut-être à une personne, mais elle ne va pas avoir l'impact que cela peut être. Vous voyez ? Ne dissocions pas actes et paroles. Mes amis, je vais m'arrêter là. Nous sommes appelés à porter le nom de Jésus. Nous sommes des chrétiens, nous portons le nom de Jésus. Nous sommes appelés à prier en son nom. Nous sommes appelés à témoigner de lui. Voilà notre message, voilà notre mission. C'est Jésus qui nous envoie, c'est lui qui nous demande de porter son nom comme une lumière, comme un étendard, en comptant sur le Saint-Esprit. Frères et sœurs, osons les petits gestes qui peuvent changer beaucoup de choses, qui peut-être pour vous, pour moi, sont vraiment des gestes dérisoires, mais qui peuvent vraiment, vraiment transformer les choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Ah, je vais prier et je vais vous demander, après je laisse la place à Pascal, je vais vous demander de vous lever. Seigneur, cette assemblée, elle est debout. Nous sommes debout. Notre désir, c'est toi qui l'as mis en nous, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de personnes autour de nous te connaissent et viennent au salut. C'est notre désir, Seigneur. Mais Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi et de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit qui nous aide à ouvrir nos oreilles et notre cœur aux opportunités que chaque jour tu nous offres. Seigneur, je te prie pour que tu fasses de chacun d'entre nous et en tant que communauté des témoins de Jésus-Christ qui portons ton nom simplement, qui vivons en conformité avec qui tu es, avec ce que tu es. Saint-Esprit, prends nos gestes, prends nos mains, prends nos cœurs, prends nos bouches pour faire ce que tu as à faire dans notre monde, dans notre société et dans la ville de Nîmes, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Embarque-nous dans ton aventure. Embarque-nous, Seigneur Jésus, dans cette aventure qui a commencé il y a 2000 ans et même avant, dans ton cœur. Entraîne-nous, embarque-nous, Seigneur. Nous voulons te suivre. Amen. Amen.